Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Claire Tiercelin vous retrouve aujourd'hui pour la demi-heure mensuelle de l'association Église ouverte en Eure-et-Loire. Nous allons évoquer aujourd'hui la rénovation d'un tableau du patrimoine religieux, celui de Mgr Arsquette. Tous les tableaux qui trônaient dans l'ancien évêché présentaient des portraits de tous les évêques, mais il existe un tableau en pied de Mgr Arsquette qui fut évêque de Chartres de 1926 à 1954. C'est Mgr Michon qui lui succéda. Un peu d'histoire. Ce tableau a été peint par M. Ivanov en 1944. Son frère était professeur à Chartres et avait donc fait cette proposition à l'évêque. La mitre que l'on voit sur ce tableau était celle de son ordination épiscopale. Elle est visible aujourd'hui au musée de Loigny-la-Bataille. Les ornements qu'il porte ont été confectionnés par la marquise de Gramont. Mais une fois le tableau peint, Mgr Arsquette ne l'aurait pas acheté et il a été emporté à Paris. Il a été racheté par Mgr Ménard, originaire de Dreux, et qui est devenu évêque de Rodez. Ce tableau aurait été exposé pendant quelques années dans le bureau de son père. On retrouve ensuite ce tableau dans l'ancien grand séminaire rue Saint-Aimant, dans les évêchés de la rue Muret, puis de la place Jean-Moulin, et enfin à la Visitation. Le projet de restauration a été initié par la Commission d'art sacré dans le cadre de sa mission de conservation du patrimoine diocésain et soutenue par les services de l'État, c'est-à-dire la DRAC. Le diocèse possède une galerie de portraits des évêques de Chartres remarquable. Cet ensemble a fait l'objet d'une protection le 18 février 2016, inscrit au titre des monuments historiques. Le tableau de Mgr Arsquette est parti en restauration début janvier 2017. Le retour est prévu pour bientôt, en mai 2017, où il sera accroché dans la sacristie de la cathédrale. Le restaurateur est M. Quentin Arguilière à Boussy-Saint-Antoine, en région parisienne. La restauration de ce tableau, patrimoine religieux, est pour nous l'occasion de parler de Mgr Arsquette, qui fut à la tête de notre diocèse pendant 28 ans. Pour cela, j'ai invité Monsieur le chanoine Philippe Ferré.
Non, je ne suis pas chanoine.
Ah, vous n'êtes pas chanoine. Excusez-moi, Monsieur l'abbé, directeur de la bibliothèque diocésaine. Monsieur l'abbé Ferré, bonjour.
Bonjour.
Vous considérez Mgr Arsquette comme un novateur en matière de liturgie, comme vous l'avez écrit dans le grand livre qui est paru sur la cathédrale de Chartres. Alors, pouvez-vous, Monsieur l'abbé Ferré, nous expliquer ce que Mgr Arsquette...
Novateur, ça me paraît quand même un mot un peu grand. Il a été précurseur de tout ce renouveau liturgique auquel on a assisté, notamment grâce à Vatican II. Et en ce sens-là, on peut dire que, à sa manière, Mgr Arsquette a précédé, a préparé ce renouveau liturgique. Dès son arrivée, il y a eu en 1929 un important congrès marial national célébré à Chartres. Et pour ces journées mariales, Mgr Arsquette a fait installer un hôtel pour célébrer devant les fidèles, c'est-à-dire un hôtel au transept de la cathédrale, dans ce qu'on a à l'emplacement de l'actuel hôtel. Et ceci, donc, on a célébré, comme on dit, d'une manière pas tellement élégante, face au peuple, dès 1929 à Chartres. Je souligne cela parce que c'est bien avant Vatican II,
mais
eh bien
oui.
On célébrait déjà face au peuple à la cathédrale de Chartres, 30 ans avant. Il ne faut pas nous dire que c'est Vatican II qui a tout chamboulé. Et cet hôtel était, dans les débuts, il était mobile et il était installé quand, pour les grandes célébrations présidées par l'évêque, qui donc célébrait d'une manière très, très solennelle, puisque le siège épiscopal était adossé au maître-autel au fond de l'abside, j'entends le maître-autel du XVIIIe siècle, et donc il y avait une longue distance à parcourir entre le trône et l'autel, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure.
Alors, il est question d'un indulte qui a fait jurisprudence. Pouvez-vous nous en parler? Donc, que veut dire un indulte et un indulte à quel sujet?
Eh bien, voilà. Et ça a été une date en matière du renouveau liturgique. Toute la messe solennelle, la grand-messe des paroisses et à plus forte raison les messes solennelles avec diacre et sous-diacre, était chantée entièrement en latin. Le diacre chantait l'évangile en latin. On avait en paroisse, le curé ensuite montait en chaire et lisait l'évangile en français. À la cathédrale, c'est peut-être le vicaire de semaine qui venait lire l'évangile après que le diacre l'ait chanté. Monseigneur Arsquet tenez à ce que le ministre lui-même, celui qui a chanté l'évangile, puisse ensuite lui-même proclamer en français, enfin dans la langue du peuple, l'évangile. C'est très important parce que c'est souligné que la proclamation de l'évangile dans notre langue fait vraiment partie de la liturgie et n'est pas un petit supplément plus ou moins... je ne sais pas comment dire. Alors, Monseigneur Arsquet en a parlé au pape de l'époque, qui était le pape Pie XII, lequel lui a conseillé de s'adresser à Rome au Saint-Office et non pas à la congrégation des rites, parce que de l'avis du Saint-Père, la congrégation des rites n'aurait pas dit oui. Mais le Saint-Office a dit oui, a donné l'indulte. Un indulte, c'est l'autorisation de mettre en place une nouvelle mesure, et la liturgie était à l'époque strictement réglée, et on ne modifie pas à son gré la liturgie, il fallait le consentement du Vatican, et donc un indulte. Cet indulte a eu grand succès, puisque les autres diocèses se sont au fur et à mesure, on demandait également à bénéficier de l'indulte, si bien que, d'une manière très courante, l'évangile, enfin la première lecture, l'épître et l'évangile ont été chantés en latin, comme il se doit, puis proclamés par le même ministre en français. Donc ça fait tache d'huile. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure à propos de la célébration face au peuple qu'au fête mariale, le cardinal archevêque de Paris, qui présidait en qualité de légat du pape, a trouvé l'initiative très bien et s'était empressé d'en faire autant à Notre-Dame de Paris.
C'est bien, donc Chartres a été novateur en la matière.
Voilà.
Tiercelin vous retrouve donc aujourd'hui, après cette pause, pour la demi-heure mensuelle de l'association Église ouverte en Eure-et-Loir. Nous évoquons aujourd'hui la rénovation d'un tableau du patrimoine religieux, celui de Monseigneur Arsquette. Et à l'occasion de la rénovation de ce tableau, qui, une fois restauré, sera accroché dans la sacristie de la cathédrale, nous en profitons pour évoquer ce que fut certaines œuvres de Monseigneur Arsquette dans notre diocèse. Et pour cela, c'est Monsieur l'abbé Ferré, directeur de la bibliothèque diocésaine, donc qui est mon invité. Monsieur l'abbé, parlez-nous des cérémonies assez grandioses qui avaient lieu dans la cathédrale de Chartres du temps de Monseigneur Arsquette.
Oui, alors Monseigneur Arsquette a été un grand liturgiste. Beaucoup l'ont considéré comme attaché aux rubriques, un rubriciste, on dirait d'une manière un peu péjorative. Mais à mon humble avis, il était exigeant, certes, sur les rubriques, mais il était exigeant intelligemment, c'est-à-dire qu'il voulait surtout que la liturgie ait tout son sens. Et il a beaucoup tenu à ce que la liturgie, donc célébrée notamment et surtout à la cathédrale, soit digne du lieu, bien sûr, mais digne encore plus, digne de Dieu à qui l'on rend ce culte. D'où il était exigeant, mais je dirais dans le sens de la beauté de la liturgie, de la vérité de la liturgie, ou disons de la sainteté de la liturgie. Alors ça a valu une époque assez grandiose. J'aime bien parler des fastes épiscopaux au temps de Monseigneur Arsquette, bon, là, avec un grand déploiement qui maintenant nous semblerait inimaginable. Donc lors des grandes cérémonies où l'autel était donc à la croisée du transept, le chœur était rempli de clergés, des chanoines, de nombreux prêtres qui assistaient, qu'on ne célébrait pas encore, le séminaire, la maîtrise, des chants remarquablement exécutés. Il fallait vraiment que la liturgie ait son...
La procession les processions devaient être impressionnantes quand elles arrivaient.
Les processions étaient impressionnantes.
Il prêchait à la chaire, bien sûr.
Il prêchait à la prédication, avait aussi une grande solennité, parce que l'évêque montait en chaire, alors avec sa mitre, sa crosse, entouré de tout son cortège, le diacre, le sous-diacre, les vicaires généraux qui l'accompagnaient. Il y a deux escaliers sur la chaire de la cathédrale, ils étaient de chaque côté. La prédication pour Monseigneur Arsquette, comme j'évoquais tout à l'heure, la proclamation de la parole de Dieu en français, faisait vraiment partie de la liturgie. Faut savoir qu'à l'époque, dans les paroisses, le prêtre, le célébrant, pour monter en chaire, enlevait sa chasuble. C'est un geste assez étrange qui pourrait nous laisser penser que la montée en chaire fait pas tout à fait partie de la liturgie.
Ah d'accord.
D'ailleurs, une fois, moi j'étais adolescent à l'époque, j'ai compris pourquoi le curé a enlevé sa chasuble. Parce qu'il a enlevé sa chasuble et il est monté en chaire, il a lu le passage d'évangile. On n'est pas forcément sûr que c'était l'évangile du jour, mais ça c'est une autre affaire. Il a fait son sermon, bien aussi il est descendu, il a entonné à l'harmonium, il a entendu le credo et puis il a fait la quête. Alors je me suis dit, oui, je comprends qu'il enlève la chasuble pour faire la quête.
C'est lui-même qui a fait la quête ?
Oui.
Ah bon ?
Dans une paroisse. C'était pas dans le diocèse, bien sûr.
Ah oui, d'accord.
On voyait tout à l'époque, ça n'a pas changé beaucoup depuis.
Alors, monsieur l'abbé, il serait intéressant que vous nous parliez de la veillée pascale, parce que finalement, la veillée pascale n'a lieu en soirée que depuis 1951. Et je suppose qu'à la cathédrale, cette cérémonie, cette nouveauté a dû revêtir aussi des aspects assez fastueux.
Alors ça, il y a pas mal de catholiques qui sont tout à fait étonnés
Mais
d'apprendre
oui.
qu'il n'y a pas si longtemps que ça,
Mais
en
oui,
1951,
51,
ça veut
c'est
dire
pas
il y
vieux.
a 60 et quelques années,
Mais oui.
les offices du soir du Triduum pascal étaient célébrés le matin.
Mais oui.
C'est-à-dire la messe du jeudi saint au soir était célébrée le jeudi matin, la
Vendredi.
liturgie de la Passion était célébrée aussi le matin, et la veillée pascale était célébrée le samedi matin.
Oui.
Et c'est non pas l'évêque de Chartres, mais c'est le pape Pie XII qui, en l'occurrence, a été un grand, à la fois précurseur du renouveau liturgique, et au fond, sa décision a marqué, comme le coup d'envoi, au fond, de la réforme liturgique. Puisqu'il faut parler, on peut parler de réforme. Pie XII a répondu à l'attente qui lui était exprimée par bien des catholiques, et notamment en France et en Allemagne. C'était dans l'air du temps, au fond, de retrouver la vérité des rites. Font célébrer un office de la nuit au petit matin. N'a pas de sens matériellement, quoi. C'est.
Et puis les gens ne pouvaient pas tellement se libérer
Et
pour
puis
venir à
les
la messe.
gens. Oui, alors ça, c'est encore une autre raison. La veillée pascale, donc, j'emploie le mot veillée entre guillemets, parce qu'il y avait c'était tout sauf une veillée, était célébrée donc le samedi matin, avec
Très peu de monde.
très peu de participation
Mais
des
oui.
fidèles.
Oui, mais
C'était
oui.
souvent assez modeste, enfin, très modeste. Alors que, à partir donc de la
1951.
réforme de Pie XII, on a pu redonner tout son éclat aux célébrations pascales du Triduum, c'est-à-dire tant du repas du jeudi soir qu'à la veillée pascale dans la nuit de Pâques. Et alors, à Chartres, que dire, ben, de particulier? Si la bénédiction de l'eau baptismale, hein, ayant lieu au baptistère, ça je me souviens très bien des
Ah
grandes
oui.
processions qu'il y avait avec Monseigneur Arsquette pour descendre au baptistère,
D'accord.
pour
Donc le baptistère était à la crypte comme
il
aujourd'hui.
est,
C'était l'endroit où
il date
il
du
est
XIIe
aujourd'hui.
siècle, donc il y
Oui,
a un
oui.
certain temps qu'il est là.
Oui, mais je veux dire, les cérémonies avaient lieu depuis
Bah, bien sûr, un
ce
baptistère s'est fait pour
baptistère,
servir.
bien sûr. Et donc vous montiez en grande pompe dans la cathédrale,
Eh
quoi,
ben, il y a des
au
processions
cœur.
dans les deux sens pour
Voilà.
descendre, puis pour
Pour remonter.
remonter, avec des baptêmes qui étaient célébrés au baptistère, bien
Oui,
sûr.
bien sûr.
Et oui, le tout avec un grand faste. Or, bien sûr, certains ont trouvé qu'il y avait beaucoup de décorum. D'autres ont trouvé que Monseigneur Arsquette était quand même trop exigeant sur les rubriques et ne tolérait pas la moindre incartade. Puis il est vrai qu'il faisait ses réflexions parfois tout haut, et ça ne plaisait pas toujours à tout le monde.
D'accord. Bon, merci,
Un jour,
monsieur. Oui, allez-y.
le
Oui.
supérieur d'une communauté religieuse, donc qui ne dépendait pas du diocèse, mais qui était installé dans le diocèse, paraît-il, à des remarques que lui faisait Monseigneur Arsquette, alors qu'il faisait diacre à sa droite, lui aurait dit à un moment: Monseigneur, un mot de plus et je m'en vais.
Bon, d'accord. C'était sérieux. Bon, merci, monsieur l'abbé. Alors, n'oublions pas de mentionner aussi que monseigneur Arsquette a soutenu activement et paternellement le séminaire allemand des Barbelés de l'abbé Frank Stock entre 1945 et 1947. Il a également rouvert le petit séminaire de Nogent-le-Rotrou, où plusieurs jeunes sont devenus prêtres. Notre émission se termine. Grâce à la restauration du tableau de Monseigneur Arsquette, nous avons pu survoler ce que fut son action en matière de liturgie et comment se déroulaient les cérémonies à cette époque à la cathédrale. Monsieur l'abbé Ferré, merci pour votre collaboration.
Merci.
Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle sera disponible à compter de la semaine prochaine sur le site Radio Grand Ciel et très rapidement sur le site de l'association Église Ouverte en Eure-et-Loire. Nous nous retrouvons dans un mois pour une autre émission. Merci de votre fidélité et à bientôt.